autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour, bienvenue. Les femmes soutiennent la moitié du ciel, dit un proverbe chinois. Pourtant, l'histoire de l'astronomie les a largement oubliées, préférant retenir les noms de Copernic, Galilée ou Hubble. Quand a vécu la première femme astronome ? Qui sont Caroline Herschel, Henrietta Leavitt ou Margaret Burbidge ? Comment sont-elles devenues astronomes ? Quels combats ont-elles menés ? Quelles sont leurs découvertes majeures ? Pourquoi l'accès des femmes aux sciences est-il si difficile ? Quelle est la situation aujourd'hui ? Autour de la question « Qui sont les grandes figures de l'astronomie au féminin ?» La réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Yael Nazé.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne FNRS à l'Université de Liège, FNRS pour...
Fonds national de la recherche scientifique, c'est l'équivalent du CNRS, mais en Belgique.
Voilà, et vous publiez donc aux éditions du CNRS en France, l'astronomie au féminin, un ouvrage qui rend donc justice à la moitié du ciel. Les femmes scientifiques ne sont pas toujours bien traitées par les archives. Nous avons fait une recherche à l'INA. Écoutez comment en 1949, on parlait d'Edmé Chandon, la première femme nommée astronome en France en 1912.
Un ciel plus vaste, si vaste que nous l'appelons l'infini, a sollicité en 1930 l'attention persévérante d'une jeune femme. Molière, par la bouche de Chrysal, l'eût peut-être confondu bien à tort avec sa Philaminte et raillé sa longue lunette à faire peur aux gens.
Il n'empêche que Mademoiselle Edmé Chandon, docteur en sciences mathématiques, fut nommée en 1930 adjointe à l'Observatoire de Paris.
Qu'il nous soit permis de hasarder une remarque. Oui, les femmes brillent dans toutes les professions.
Ça fait sourire, Yael Nazé. Est-ce qu'il a été difficile de mener cette recherche ? Il y a assez peu d'archives sur ces femmes astronomes ?
Oui et non. C'est-à-dire que... Il y a eu des recherches qui ont été menées, notamment dans les pays anglo-saxons.
Voilà.
Tout ce qui est lié à l'étude de genre et tout ça. Ils ont notamment fait pas mal de recherches là-dessus. Et donc, à ce niveau-là, au niveau des anglo-saxons, c'est plus facile de trouver les informations. Bien sûr, bon, pour les plus modernes, je vais dire le dernier siècle, c'est plus facile parce que les publications, elles sont en ligne, donc bon, c'est très simple. Pour les plus anciennes, c'est vrai que bon, ça dépend souvent de la volonté d'une ou deux personnes qui se sont penchées sur leur cas.
Comment avez-vous établi votre corpus ? Vous êtes basé sur des critères scientifiques ?
Alors, disons que évidemment, il y a eu deux parties. Il y a eu d'abord le départ où finalement moi qui aimais l'astronomie, l'histoire de l'astronomie, ben je me suis retrouvée face à quelques noms comme ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, je ne les connais pas.
Mais personne ne les connaît.
C'était un peu le déclencheur. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder un petit peu à gauche et à droite. Alors maintenant, pour terminer en livre, là, j'ai dû faire une sélection. Et la sélection, j'ai décidé de faire une espèce de focus sur quelques grandes découvertes liées à des femmes. Parce que un argument qu'on m'a... même très souvent resservi, c'était que, bon oui, il y avait des femmes en astronomie, mais enfin, elles n'avaient pas fait grand-chose, pas de grandes découvertes, ni rien. Donc, évidemment, la sélection est biaisée, puisque le choix va vers de grosses découvertes.
Quand a vécu la première femme astronome, ça remonte à très très loin.
Ça remonte à plus de 3000 ans. Hein. C'est la première femme astronome dont on ait trace. Il y a eu peut-être d'autres avant, mais on ne sait pas. La première dont on a trace est en fait la fille d'un empereur babylonien qui est devenue grande prêtresse. Alors, vous allez me dire, grande prêtresse, ça n'a rien à voir avec l'astronomie. Eh bien, si, parce que, évidemment, étudier les dieux, ça voulait dire étudier les astres, puisqu'on pensait à l'époque que les astres envoyaient, donc les planètes envoyaient des messages. Donc, elle était finalement directrice d'observatoire. Alors, on a gardé ses poèmes, mais ses travaux scientifiques, malheureusement, on n'en a plus trace.
Et puis, vous citez aussi le destin tragique d'Hypatie. Écoutez un extrait d'Agora, le film de fiction. C'est un péplum qui lui a été consacré en 2009 par Alejandro Amenábar avec Rachel Weisz. Alors, Hypatie a connu ce destin tragique car elle s'est retrouvée au cœur d'une querelle entre Cyril, l'évêque d'Alexandrie, et Oreste, le préfet romain païen, qu'on va entendre dans cet extrait.
Oreste, comment oses-tu t'ériger en juge de l'œuvre de Dieu ? Qu'est-ce que vous avez, les chrétiens? N'a-t-on plus le droit d'ouvrir la bouche dans la cité?
Si tu critiques la création, alors tu critiques notre Seigneur et tu nous insultes.
Va donc t'établir dans le désert. Tu seras assuré d'éviter toute offense.
Vous parlez pour ne rien dire, tous autant que vous êtes.
Donne-nous la première notion d'Euclide, Synésios.
Pourquoi la demandez-vous?
Je ne demande que ta réponse.
Deux valeurs. Si deux valeurs sont égales à une troisième, alors les trois sont égales entre elles.
Bien. Ne m'êtes-vous pas tous deux comparables?
Ouais.
Et toi, au reste?
Certes.
Ce que je dis maintenant s'adresse à chacune des personnes de cette assemblée. Il y a plus d'affinité entre nous que de divergence. Quoi qu'il puisse advenir dans les rues, nous, nous sommes frères. Nous sommes frères. Alors dites-vous bien que les bagarres ne conviennent qu'aux esclaves et à la ligue.
Yael Nazeh, Hypatie a vécu entre 355 et 415 à peu près. Elle a été très très soutenue par son père, qui était lui-même philosophe, Théon. Elle a été se former à la philosophie à Athènes et elle s'est retrouvée au cœur d'une querelle de religion au fond.
Bah, finalement, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que le problème, c'était que à l'époque, les chrétiens commençaient à prendre de l'importance, mais bon, ils voyaient un peu d'un mauvais œil que le préfet soit païen, et donc bon, il y a eu des clashs entre eux assez réguliers, et finalement, quand Cyril a essayé d'atteindre Oreste, notamment en tentant de le faire assassiner, il n'a pas réussi. Et bon, vu qu'il ne savait pas l'atteindre lui, il a essayé de trouver un moyen de l'atteindre quand même, mais par la bande. Et du coup, bah, pour trouver une espèce de bouc émissaire, il a trouvé Hypatie, qui était l'ami d'Oreste. Alors c'est vrai qu'ils s'entendaient, on ne peut pas dire... partant de là que la politique d'Oreste était inspirée par Hypatie, mais disons que c'est ce que Cyril a un peu utilisé comme prétexte pour s'en débarrasser, ça l'arrangeait bien aussi.
Mais est-ce qu'elle a été tuée parce qu'elle était savante?
Parce que elle avait une importance certaine dans la cité. Et son importance venait du fait qu'on était à Alexandrie, qu'il y avait la bibliothèque et qu'elle était justement un des personnages principaux de cette bibliothèque. Donc, bon, elle aurait pu être préfète ou autre chose, enfin un autre personnage important de la cité. Mais voilà, il se fait que, bon, c'était assez peu accessible aux femmes, de toute façon, hein, quel que soit le poste avancé. Et voilà, elle était savante. Donc, on peut pas dire qu'elle a été tuée parce qu'elle était savante, quelque part, mais parce qu'elle avait beaucoup d'importance et que c'était devenu finalement un symbole.
Mais ce qui est frappant dans le destin de toutes ces femmes que vous relatez, Yael Nazeh, c'est qu'au fond, elles ont eu accès à des connaissances parce qu'elles ont été aidées souvent par un père, par un mari. L'astronomie, c'est fait en famille, au sein de la famille.
Souvent, oui. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'école publique. Il n'y avait pas un accès général à l'éducation. Et donc, finalement, bah, l'éducation venait principalement des parents. Et bon, voilà, la majorité des parents bah, apprenaient aux filles plutôt à s'occuper de leur foyer, à faire le ménage et ce genre de choses. Mais il y avait quelques parents qui se disaient que finalement, autant leur apprendre aussi des notions de science, surtout quand ils en avaient besoin. Ça a été un truc régulier de savants qui ne trouvaient pas d'assistants valables et qui se sont dit finalement, bon, dans ma cuisine, il y a peut-être quelque chose qui pourrait servir avec un cerveau.
C'est ça, c'est-à-dire que les femmes en astronomie ont souvent été des petites mains et puis ensuite, à partir de là, elles ont déployé leurs talents.
Oui, c'était le moyen d'entrer, le moyen de mettre le pied dans la porte.
L'Asie est aussi un monde important en astronomie, Yael Nazeh.
Alors très important parce que l'astronomie chinoise est très très ancienne et avait des moyens que n'avait pas du tout l'astronomie occidentale puisque c'était un ministère, il y avait un ministère de l'astronomie en Chine. Donc l'astronomie était vraiment quelque chose d'extraordinaire en Chine. Il y avait énormément d'astronomes, il y avait des observatoires. Il y a 2000 ans d'ici, il y avait des observatoires avec autant, l'observatoire principal, avec autant de personnel que les observatoires au Chili actuellement. Donc, je veux dire, c'est pas des petites choses. Maintenant, bah, là aussi, il y avait une école pour devenir fonctionnaire en astronomie, mais plutôt des écoles ouvertes aux hommes.
Alors on le disait, vous avez choisi de regrouper les femmes astronomes dans ce livre en fonction de leurs découvertes. On va commencer par les comètes, les astres chevelus, avec l'histoire des deux Caroline juste après Moonshine de Cathy Melua sur RFI. Well, my eyes are closed but my heart's on fire because the clock is approaching the midnight hour. I leave my Moonshine, Tim Elua, Moonshine sur RFI. Yaël Nazé, dans ce livre L'astronomie au féminin paru aux éditions du CNRS, vous racontez le destin de l'une des plus grandes découvreuses de comètes, c'est la Britannique Caroline Herschel, la sœur de William Herschel, qui lui est connue pour avoir découvert la planète Uranus. En réalité, elle a fait bien plus de choses que lui. Alors, son destin est absolument fascinant, puisque au départ, elle était destinée à être, au fond, la petite cendrillon du foyer. Elle était très, très maltraitée par sa famille, notamment par sa mère. Et puis, elle s'est passionnée pour l'astronomie en venant vivre avec son frère, William.
Oui, elle était embarquée un peu de force. Ouais. Finalement, c'est vrai qu'au départ, c'est une famille un peu particulière. Les parents étaient assez mal assortis, finalement. Et il y a une partie des enfants qui a hérité l'intelligence du père. Hein, ouais. Bon, et malheureusement, il y avait une fille dans la bande. Mais la mère, évidemment, elle voulait garder ses filles autour d'elle pour qu'elle fasse son boulot à elle, hein, le ménage, ce genre de truc. Une des deux filles a rapidement compris et est partie, mais Caroline Herschel, pour diverses raisons, elle avait été malade, elle est restée très petite et très menue, donc elle n'a pas trouvé de mari, donc elle n'a pas pu partir. Et bon, voilà, elle est devenue un peu esclave de sa mère, et puis voilà, c'est son frère l'a sauvée, entre guillemets, il l'a récupérée. Au départ, c'était surtout pour tenir sa maison, et on annexe aussi devenir cantatrice, puisque les Herschel avaient le don de la musique. Elle a fait une très belle carrière, elle aurait pu continuer dans ce domaine-là, mais voulant rester auprès de son frère, elle a dû, revoir ses intérêts avec les siens, puisque les siens étaient en train de partir vers l'astronomie, et donc elle a suivi. Alors elle a suivi, et c'est là qu'elle a pris de plus en plus d'importance.
Et c'est la première femme du monde à être payée pour faire de l'astronomie.
Oui.
Ça, c'est très important.
C'est important parce que c'est une reconnaissance. C'est assez amusant parce que au départ, elle n'était pas du tout payée pour le faire. Mais quand elle s'est disputée avec son frère parce que son frère a eu le malheur, étant vieux garçon, de se marier, elle n'a pas supporté qu'il ne reste pas exclusivement à elle, elle a exigé d'avoir un salaire.
Que sait-on des comètes à l'époque de Caroline Herschel? Donc, on est à la fin du 18e.
Oui. Alors, on sait déjà quand même pas mal de choses, puisqu'on sait que les comètes sont périodiques. Puisqu'on a eu Halley qui a calculé ces fameuses orbites et s'est rendu compte qu'il y en avait une qui revenait, hein, la fameuse comète de Halley. Donc, on n'est plus dans une comète vue un peu comme un présage plus ou moins négatif. On est vraiment dans l'étude physique des comètes. Et donc, là, on essaie de découvrir de plus en plus de comètes, d'essayer de trouver quelles sont leurs trajectoires, essayer de comprendre d'où elles viennent, de quoi elles sont composées. Donc, on est vraiment dans les débuts de la science des comètes.
Alors, on va faire un grand saut dans le temps avec une autre chasseuse de comètes qui a aussi chassé les astéroïdes. C'est une autre Caroline Shoemaker, qui a donné son nom avec son époux. Et puis un autre astronome, David Levy, son nom à la comète Shoemaker-Levy 9. Et cette comète a percuté Jupiter en 1994.
Les astronomes ont été témoins d'explosions massives sur la planète Jupiter, alors que des fragments de la comète Shoemaker-Levy sont entrés en collision avec la planète et des explosions plus importantes sont attendues ultérieurement.
On l'appelle la plus grosse explosion du système solaire depuis 100 ans. Une demi-heure après la pénétration du premier fragment, l'impact est toujours visible. Un nuage de débris s'est répandu sur des milliers de kilomètres. Les astronomes jubilaient.
Nous allons voir des choses et nous allons apprendre énormément. C'est la bonne nouvelle ce soir.
Alors, qui est Caroline Shoemaker? Et quelle est l'importance de son travail avec son époux Jean, puisque les époux sont indissociables?
Oui, et souvent on oublie, en fait, voilà. Caroline, j'ai beaucoup de collègues qui étaient persuadés que la comète, justement, Shoemaker-Levy, c'était Eugène qui l'avait trouvée. En fait, non, pas du tout, c'est Caroline. En fait, Caroline, au départ, c'est pas du tout une scientifique. C'est une fille qui a plutôt fait les sciences humaines et qui, après ses études, très rapidement, s'est mariée avec un astronome. Et elle est restée à la maison, s'occuper des enfants. Mais quand les enfants étaient grands, elle s'embêtait un petit peu. Et le problème, c'est que Eugène, lui, il est un peu différent, c'est qu'il a toujours plein de projets, il a jamais assez de sous pour engager des gens. Donc finalement, quand il a vu qu'elle s'embêtait et qu'elle a demandé quelque chose à faire, il dit pas de problème. Et alors, il a commencé à lui donner des travaux à faire. Alors au début, c'était juste commencer à remettre en ordre 2-3 petits trucs. Puis finalement, il s'est rendu compte que quand même, elle sait faire plein de choses. Elle va aller observer, elle va aller découvrir. Elle a découvert comme ça plein d'astéroïdes. qui était au départ leur recherche, hein, puisque eux étaient partis dans l'idée d'essayer de trouver ce qu'on appelle des géocroiseurs, donc des astéroïdes qui peuvent tomber sur Terre et créer des impacts.
Des impacts, voilà.
C'était vraiment le truc de Gene Shoemaker, c'était l'étude des impacts, et particulièrement des impacts sur Terre, passés ou futurs. Mmh. Et dans sa liste de découvertes, elle aurait bien voulu trouver une comète, et puis elle en trouve une, deux, trois, et puis elle arrive à une trentaine. Et dans la bande, il y en a une qui devait rencontrer Jupiter. Alors franchement, ce truc-là, en 94, moi je me souviens très bien, j'étais encore assez jeune, mais c'était vraiment amusant, parce que personne ne savait à quoi s'attendre, parce que Jupiter, c'est énorme, c'est 10 fois la taille de la Terre, et la comète, elle était cassée en petits morceaux, c'est des petits machins, c'est des morceaux d'une centaine de mètres. Personne ne savait exactement ce que ça allait être. Alors, ça a été vraiment le grand choc, quoi. Donc, cette comète a vraiment marqué un tournant aussi.
Mais pourquoi c'est si important de s'intéresser aux impacts?
Ah ben, il y a des raisons très simples. Hein. Les dinosaures, ils ont disparu à cause d'un impact. Hein. Donc, voilà, si on ne fait rien, on sait qu'on aura un jour un astéroïde qui nous tombera dessus. C'est inévitable. Alors, l'idée d'essayer de les recenser, comme Gene Shoemaker voulait le faire, c'est quelque part de pouvoir prévoir le risque. Et peut-être d'agir dessus. C'est le genre de choses auxquelles on réfléchit très sérieusement. Bon, on n'est pas dans les films Armageddon, mais bon, il y a des études sérieuses qui se font pour savoir que faire. Donc, d'abord, les recenser, et puis essayer d'agir si jamais il y en avait un qui s'approchait un peu trop près.
Alors, la science cométaire a largement progressé, notamment grâce à la spectroscopie. Un mot sur cette science, Yael Nazeh ?
Alors, la spectroscopie, c'est finalement l'analyse de la lumière. Essayer de regarder les signatures de la matière dans la lumière. Alors, façon très simple de le faire, la spectroscopie, quelque part, c'est comme produire un arc-en-ciel. Parce que vous avez de la lumière du soleil, qui est décomposée par les gouttes d'eau en un arc-en-ciel. Eh bien, en fait, ça, on peut le refaire avec des petits prismes, avec des réseaux, enfin, avec plein de petits artifices optiques. Et l'étude de cet arc-en-ciel, c'est ça, la spectroscopie. Bon, on donne toujours des noms un petit peu plus compliqués. Hein. Étude de l'arc-en-ciel, c'était peut-être plus simple, mais voilà. Et donc, en étudiant cette décomposition de la lumière dans ses couleurs, eh bien, on peut essayer de comprendre ce qui compose l'objet qui a émis la lumière.
On va continuer de parler du spectre dans la deuxième partie de cette émission. Autour de la question, qui sont les grandes figures de l'astronomie au féminin? Nous allons voir comment la patience des femmes américaines a permis de dresser un catalogue des étoiles. C'est le harem de Pickering à Harvard. On en parle juste après les informations sur RFI. Yael Nazeh, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes.
De la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, qui sont les grandes figures de l'astronomie au féminin, avec Yael Nazeh, astrophysicienne, auteure de l'Astronomie au féminin, parue aux éditions du CNRS. Alors, l'une des figures importantes que vous citez dans cet ouvrage, Yael Nazeh, c'est Henrietta Swan Leavitt, une américaine, sans qui, dites-vous, nous nous croirions toujours au centre d'une galaxie unique emplissant tout l'univers. Écoutez un extrait d'un film qui lui a été consacré, et c'est Marvin Bolt, vice-président des collections au planétarium Adler de Chicago, qui parle d'elle.
Henrietta Leavitt is known for two different things. One is a catalog of sequences.
Henrietta Leavitt est connue pour deux choses différentes. L'une est d'avoir catalogué et séquencé les étoiles variables près du pôle céleste nord, mais la plus importante découverte a concerné les variables céphéides, et le résultat de cette découverte a été fondateur pour l'astronomie actuelle et nous donne toujours des informations aujourd'hui. Ce qu'elle a fait a été de regarder une sorte d'étoile appelée les variables céphéides. Une variable céphéide est une grande étoile qui ne vit pas très longtemps, et il n'est pas si fréquent de les voir regroupées. Mais elle a pu en observer environ 2 douzaines dans nos voisins astronomiques, le petit et le grand nuage de Magellan. On peut seulement les voir dans l'hémisphère sud. Donc même si elle n'a pas pu les observer depuis Harvard, il existe des photos prises dans un observatoire de l'hémisphère sud au Pérou, et elle a trouvé plus de 2000 étoiles variables. Et pour 2 douzaines d'entre elles, elle en a trouvé une importante corrélation.
Alors Henrietta Leavitt a compris la relation période-luminosité des céphéides. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça fonctionne, Yael Nazeh? Puis ensuite, on parlera un peu de sa biographie.
Alors en fait, ce sont des étoiles variables périodiques, c'est-à-dire qu'en fait, la lumière Et d'abord, enfin, je veux dire, les étoiles sont plus brillantes, moins brillantes, plus brillantes, moins brillantes, plus brillantes, moins brillantes. Donc ça, je veux dire, c'est régulier. Et la luminosité moyenne dépend du temps mis pour passer entre plus brillant à moins brillant. D'accord. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait, comme ça, un petit peu obscur, mais finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas mesurer les distances dans l'univers avec une petite latte ou un petit mètre qu'on irait poser. Alors, comment faire ? Eh bien, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ok, si je prends, je sais pas moi, une bougie, je l'ai à une certaine distance, je vois ce qu'elle donne comme lumière, je la mets deux fois plus loin, elle va me donner quatre fois moins de lumière.
C'est ce qu'on appelle la chandelle standard.
C'est ce qu'on appelle la chandelle standard. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on se dit, bah, plus on éloigne une source de lumière, eh bien, plus elle va paraître faible. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la lumière qu'on observe et quelle est la lumière émise. La lumière est réelle. Et cette relation période-luminosité, c'est ce qu'elle permet de déterminer. Donc, il suffit d'observer l'étoile. On la voit faire des petits haut bas au niveau de sa lumière, on mesure ça et on a tout, on a sa distance. Et à partir de là, évidemment, on peut faire plein de choses. On a, grâce à cette découverte d'Henrietta Leavitt, Hubble a pu déterminer que la nébuleuse d'Andromède, comme on l'appelait à l'époque, était une galaxie, une autre galaxie, donc notre Voie lactée n'était pas la seule. Un autre, Arlo Chapelet, a permis de déterminer qu'on n'était pas, le Soleil n'était pas au centre de notre galaxie. Et puis, on a pu montrer aussi que l'univers était en expansion.
Donc, c'est absolument fondamental.
C'est absolument fondamental.
Alors, Henrietta Leavitt a fait partie de ce qu'on a appelé le harem de Pickering au sein de l'observatoire de Harvard. De quoi s'agissait-il, Gaëlle Nazé ?
Eh bien, en fait, au départ, il s'agit d'un gros problème pour le tout nouveau directeur d'Harvard, Edward Pickering, qui se retrouve dans un vieil observatoire avec pas beaucoup d'employés, pas beaucoup de fonds, et il ne sait pas très bien à quoi faire. Et ce sont les femmes qui vont le sauver. Les riches veuves qu'il va démarcher vont lui donner de l'argent, des sous, il va s'équiper d'astronomes en utilisant des femmes parce qu'elles sont moins chères. Et non seulement elles sont moins chères au départ, mais en plus elles ne demandent pas d'augmentation. Donc c'était très économique pour lui. Et bon, il fallait bien trouver un sujet, il s'est dit bon, on va classer les étoiles. Alors voilà, il part avec cette idée-là, il envoie les hommes observer, notamment au Pérou, puisqu'il y avait, il a installé là-bas une lunette, et puis il faut quelqu'un pour s'occuper des données. Donc il donne les plaques photographiques, puisqu'à l'époque c'était comme ça, il donne les plaques photographiques à tout un ensemble de bonnes femmes, pas chères, et c'est elles qui vont finalement faire le boulot. Alors d'accord, c'est lui qui a eu l'idée du projet, mais c'est elles qui vont tout faire.
Et de là émerge la classification des étoiles telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, au fond.
Tout à fait. Elles vont non seulement cataloguer évidemment toutes ces étoiles, trouver des étoiles variables comme Leavitt, trouver même des paramètres qu'on n'imaginait pas comme Leavitt. La loi de Leavitt, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ. Et puis elles vont trouver un moyen de classer, parce que bon, tant que vous avez 3-4 étoiles, ça va. Quand vous commencez à en avoir des milliers, il faut trouver un moyen de les classer. Et elles n'avaient aucun guide au départ, donc elles ont vraiment imaginé le truc depuis le début.
Et donc cette classification, donc c'est la fameuse suite OBAFGKM,
oui,
c'est
ça, qu'on retient
par un moyen mnémotechnique.
Be a fine girl, kiss me, ou a fine guy, donc soit une gentille fille, embrasse-moi. Ça peut paraître bizarre d'avoir des lettres comme ça dans un ordre un peu bizarre, mais ça vient de l'histoire de cette classification. C'est un petit peu compliqué. On a regardé d'abord une signature dans cette lumière. Qui était la signature de l'hydrogène, puis on s'est ravisé quelque part, et elles se sont dit, ouais, mais non, il faut regarder d'autres signatures, et finalement, du coup, la classification initiale qui était A, B, C, a dû être réarrangée, et ça a donné OBAFGKM, et on utilise ça encore tous les jours aujourd'hui.
Alors on va laisser le harem de Pickering pour une autre femme très très importante qui a elle aussi travaillé avec son mari, c'est Margaret Burbidge, une Anglaise qui a émigré aux États-Unis. Elle est à l'origine du fameux article B2FH avec son mari Geoffrey Burbidge, William Fowler et Fred Hoyle. Écoutez Margaret Burbidge, c'était en 2001, elle parle des deux cosmologies opposées.
Well, Demandons-nous quelles données nous avons à notre disposition. J'ai parlé hier dans la conférence que j'ai donnée du travail de Fred Hoyle sur la création des éléments chimiques dans les étoiles, de quoi ces éléments sont composés. Et j'ai mentionné qu'il y avait un problème avec les plus légers, le deutérium, l'hydrogène lourd, l'hélium. Ceux d'entre nous qui sont partisans des modèles d'état stationnaire pensent que ces éléments trouvent leur origine dans les étoiles en leur sein. Mais selon le modèle de la cosmologie standard, ils ont été créés à l'origine de l'univers, en d'autres mots, lors d'un Big Bang Show que j'ai mentionné hier, lors duquel les trois physiciens George Gemmell, Edward Teller et Maria Goeper-Meyer avaient avancé que tous les éléments qui composent notre univers ont été créés à partir de neutrons à l'origine de l'univers.
Alors Margaret Burbidge et son époux sont de farouches opposants à la théorie du Big Bang.
Et encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui. Quelle est leur théorie en réalité?
Alors ils sont partis sur une idée d'univers. Elle l'a évoqué, d'état stationnaire. Donc en fait c'est plutôt un univers qui est toujours en expansion mais qui n'a pas vraiment de début. Et donc il y a une création de matière continuelle et évidemment c'est pas évident à réconcilier avec les vues standards, on va dire, mais ils arrivent quand même à pouvoir arriver à des générations d'étoiles qu'on n'aurait pas vues mais qui ont quand même formé tous ces éléments légers que l'on utilise aujourd'hui. Donc c'est un modèle un petit peu particulier parce que ça marchait relativement bien tant qu'on n'avait pas d'éléments observationnels hein, qui soutiennent ce Big Bang. Et ils ont dû adapter évidemment depuis les 50 dernières années. Ça a été un petit peu dur pour eux et c'est vrai qu'ils sont
très minoritaire.
Très minoritaire. Oui.
Quel est le destin de Margaret Burbidge? Elle a eu beaucoup de problèmes dans sa carrière. Elle a été reconnue sur la fin, mais ça a été très difficile, notamment en Angleterre.
Oui, elle a eu pas mal de problèmes parce que c'était pas évident pour elle de pouvoir faire les études, de pouvoir faire son doctorat et de pouvoir continuer après son doctorat. Donc elle a dû se battre un peu à tous les niveaux. Bon, c'est vrai qu'elle était reconnue, mais finalement, bon, on lui a proposé, par exemple, de diriger l'observatoire de Greenwich, mais on n'a pas arrêté de lui mettre des bâtons dans les roues.
Voilà, c'est-à-dire que la vieille garde des astronomes était extrêmement hostile.
Exactement.
On lui refuse le titre d'astronome royal.
Qui allait avec le titre de directeur depuis le début. Et puis, bon, soudainement, on arrête la tradition. Il y a quand même eu une opposition assez réelle. Hein. Bon, ça, il faut pas le nier. En plus, bon, évidemment, si elle arrive avec des vues non standards, ça n'aide pas. Mais voilà, malgré tout, je crois qu'il faut lui reconnaître plusieurs choses. D'abord, d'avoir l'esprit ouvert, puisqu'elle a accueilli des gens comme Vera Rubin qui étaient les élèves de Gamow et donc qui étaient pro-Big Bang. Et donc, elles ont montré une ouverture d'esprit que très souvent, ses opposants n'ont pas montré. Et d'autre part, elle a aussi le mérite de mettre le doigt sur des problèmes. Son mari aussi, hein, à un meeting il y a quelques années, son époux était venu. Et là encore, hein, il a juste regardé deux, trois petits talks et tout de suite, il a vu qu'il y avait un problème dont personne n'ose parler. Hein, et il met tout de suite le doigt dessus. Et ça, c'est vrai que il faut quand même, parmi les savants, qu'il y ait ce genre de personnes, ce genre de poils à gratter pour rappeler que bah voilà, tout n'est pas parfait et qu'il faut réfléchir.
Et son mari a dit un jour s'intéresser à l'astronomie parce qu'il avait épousé un astronome.
Oui, lui est physicien hein, au départ et bon, il faut bien se dire qu'il y a pas mal de fois où c'est lui qui a officiellement été chef du projet, mais c'est simplement un prête-nom hein, pour qu'elle puisse faire les projets qu'elle voulait.
On va parler des pulsars, Yael Nazé, juste après Les étoiles de Mélodie Gardot.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do. La do.
toi, si seulement je savais. Donne-moi étoile de qui obtenez-vous la lumière. Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile qui vous donnera l'amour. Volato, la do, la do, la do.
Mélodie Gardot, Les étoiles sur RFI. Un jour de 1967, une jeune étudiante de Cambridge entend un drôle de bruit. Jocelyne Bell venait de découvrir les pulsars, écoutez son témoignage sur la chaîne de télévision BBC 4.
And I switched on the high-speed recorder and came blip.
En augmentant la vitesse d'enregistrement du signal, j'ai entendu blip, blip, blip. C'était clairement une même famille d'étoiles, et ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. J'ai finalement abandonné l'hypothèse des petits hommes verts, car il est hautement improbable que deux civilisations extraterrestres, de chaque côté de l'univers, décident en même temps d'entrer en contact avec la Terre en utilisant la même technique. Il devait donc s'agir d'une nouvelle espèce d'étoile, jamais vue avant, et il était clair que nous pouvions rendre cette découverte publique. L'excitation était due au fait que c'était totalement inattendu, un tout nouveau genre d'objet, qui se comportait d'une manière que les astronomes n'avaient jamais prévue, dont ils n'avaient jamais rêvé.
Yael Nazé, à l'époque, c'est le patron de Jocelyne Bell qui a recueilli les lauriers de sa découverte. C'est lui qui a obtenu le prix Nobel de physique en 1969.
Oui, c'est même pire que ça. Hein. C'est-à-dire que le patron soit associé, on peut comprendre, parce qu'en général, ils sont peut-être à la base des projets, des choses comme ça, admettons. Sauf qu'ici, ce n'était pas du tout le cas. Il lui avait demandé de faire un boulot bien précis et elle a découvert ça. Elle a découvert quelque chose un peu par hasard, et elle est allée au-delà, elle a commencé à creuser, à essayer de comprendre. Et elle avait émis l'hypothèse que ça ressemblait un peu à un phare, ce qui s'est avéré tout à fait exact, alors que lui est arrivé avec l'hypothèse des petits extraterrestres, hein, parce que c'était un signal régulier, ah là là, et bon. Et elle n'était pas convaincue, donc elle a poursuivi vraiment les choses jusqu'au bout, et malheureusement, elle n'a pas pu terminer finalement, tout simplement parce que... elle était mariée, elle a dû changer de boulot et elle a pas pu continuer. Donc elle a eu une carrière très très chaotique et en plus pas aidée par son patron qui s'est rendu compte très rapidement que c'était une grosse découverte et qui s'est arrangé aussi un petit peu pour la mettre de côté, quoi.
Comment on explique le phénomène des pulsars?
Alors, le phénomène des pulsars, en fait, un pulsar, c'est une étoile morte, une étoile massive qui est morte, donc très très compacte, et qui émet de la lumière dans une espèce de jet, un peu comme un phare. Vraiment comme un phare qui émet de la lumière dans un jet de lumière, et qui tourne. Forcément, ça tourne, hein, les étoiles, elles tournent sur elles-mêmes, bon, y a la Terre aussi, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est immobile dans l'univers. Et donc, ce qui se passe, c'est que si la Terre est bien orientée, ben, le faisceau du phare vous passe devant, et à ce moment-là, si vous l'enregistrez en radio, ça vous fait un bip. Et donc, c'est un bip régulier, puisque ça revient à chaque tour. D'où la régularité a fait penser au départ à un signal extraterrestre, mais on s'est vite rendu compte qu'il y en avait plusieurs et que finalement, c'était un phénomène tout à fait banal.
Est-ce que vous dites dans votre livre que le pulsar peut cannibaliser son compagnon?
Tout à fait, oui. Alors, il se fait que la moitié des étoiles
vivent en couple... Si le
compagnon
est une autre étoile, hein, voilà.
Voilà, donc la moitié des étoiles vivent en couple... Et ça ne se passe pas toujours très bien. Et contrairement aux histoires pour les enfants, c'est pas le gros qui mange le petit, mais c'est le petit qui mange le gros. Et justement, les pulsars, donc très très compacts, ont une gravité très forte. Et si leur compagnon est un petit peu gros, eh bien, il va pouvoir aspirer la matière du compagnon. Et ça va pouvoir les rajeunir, les faire tourner plus vite. Et donc, il y a des pulsars comme ça, on appelle rajeunis, parce que ils sont en train de manger leurs copains. Alors, on les voit bien, hein, ceux-là, on les connaît bien. C'est un des moyens de détection en fait des pulsars.
Alors, on a beaucoup parlé dans cette émission des femmes anglo-saxonnes. Je voudrais vous faire écouter, Yael Nazé, la voix de Catherine Czarski, la première femme présidente de l'Union Astronomique Internationale. Elle revenait sur son parcours en 1990 sur France Culture dans l'émission Carnet d'été.
Je ne suis pas l'un de ces astronomes qui a passé toute son enfance à regarder le ciel en se disant que toute sa vie, il s'occuperait de cela. J'étais simplement attirée par la nature d'une part et par les mathématiques d'autre part. Et j'ai découvert finalement assez tard, en seconde, en première, que on pouvait mettre ces deux choses ensemble, qu'on pouvait essayer de mettre la nature en équation. Et ça, je l'ai découvert tout simplement avec les cours de physique du lycée. Et c'est ça qui m'a amenée à faire des études de physique. Et c'est amusant parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, les Argentins voulaient plutôt pousser les physiciens vers l'expérimentation. Et personnellement, j'avais envie de faire de la théorie. Et quand j'étais en quatrième année, ce jeune professeur, Carlos Varsavsky, il rentrait des États-Unis avec, on peut dire, un radiotélescope sous le bras, en pièces détachées, puisqu'il s'agit quand même d'un engin de 30 mètres, une antenne de 30 mètres. Qui était vraiment offert par la Carnegie Institute of Washington. L'idée étant que c'était tout à fait intéressant d'installer un observatoire en Amérique du Sud, parce que nous avons accès, là, à une partie du ciel qui n'est pas accessible de l'hémisphère nord. Donc, d'un point de vue scientifique, en fait, cet observatoire a fonctionné depuis, a donné et continue à donner énormément de résultats. Donc, nous avons passé un an et demi à vraiment mettre ce télescope sur pied, à construire aussi vraiment de nos mains l'électronique qui allait avec. Et puis, lorsqu'il a commencé à marcher, nous sommes partis.
Vous connaissez le télescope dont parle Catherine Czarski et Yael Nazé?
Pas en détail, évidemment, puisque moi, je suis je travaille de l'autre côté. Moi, je travaille en rayon X plutôt, donc c'est l'autre côté de la lumière, lumière énergétique. Mais elle a fait énormément de choses. Hein, et elle a non seulement été directrice de l'IAU, hein, présidente de l'IAU, mais en plus aussi de l'Observatoire européen austral au Chili, justement. Donc, on s'est bien rendu compte qu'effectivement, mettre des télescopes en Amérique du Sud, c'était très intéressant.
Mais en quoi son parcours est exemplaire?
Tout simplement parce que elle a montré que les femmes pouvaient aussi prendre des postes de direction. Alors c'est pas la première. Il y avait des femmes directrices de labo, mais là on parle à des niveaux internationaux. Et c'est peut-être une particularité française à ce niveau-là. Il y a pas mal de femmes astronomes qui justement dirigent des labos, dirigent des groupes plus importants, qui vont proposer des instruments à l'ESA, des choses comme ça, qu'on retrouve peut-être moins dans d'autres pays. Donc finalement, c'est assez logique que ça soit une Française qui soit arrivée la première à ces niveaux-là.
Alors, Catherine Czarski a fait ses études en Argentine. J'ai appris en lisant votre livre que ce pays compte 39% de femmes astronomes. Mm-hmm. Donc c'est le premier rang mondial. Et c'est très très étonnant de voir la classification des pays, parce que c'est pas du tout les pays qu'on croit qui sont les premiers. Alors là, en termes de femmes de promotion des femmes en astronomie.
Non, c'est assez amusant. Hein. Évidemment, si on demande là aux gens, à votre avis, où est-ce que ça va le mieux, les gens vont sortir la Scandinavie, puisque c'est assez classique. Hein, l'égalité scandinave est bien connue. Alors que pas du tout. C'est dans les pays latins, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale comme le Mexique, ou alors des pays autour de la Méditerranée. Hein, je prends l'Italie aussi, qui ont un fort pourcentage de femmes. Et les pays plus scandinaves, y compris l'Allemagne, hein, associons là aussi, ont justement des taux assez faibles de femmes. Bon, on n'atteint pas le 0% du Vatican, mais...
on s'y attendait un peu.
Oui, pour ça, là, on s'y attendait un peu. Bon, mais c'est vrai qu'on passe de 10% pour les pays qui sont justement en queue de peloton à des 30, voire 39% dans les pays plus latins.
Comment ça s'explique ?
Alors, c'est assez compliqué, en fait, comme explication. L'explication n'est pas dans la science elle-même, puisque, ben, justement, les femmes ont fait de l'astronomie depuis très longtemps, elles savent le faire. Hein. L'idée n'est pas là, c'est pas un truc inné. Mais par contre, il y a l'influence culturelle et sociale. Alors, il y a plusieurs choses. Si vous prenez, par exemple, le cas d'Italie ou de certains pays, justement, latins ou méditerranéens, les postes à l'université sont très peu valorisés, ce sont des salaires qui sont pas très hauts, c'est pas très agréable. Donc finalement, les hommes vont avoir tendance à chercher d'autres types de postes. Et bon, forcément, bah, il faut bien quand même quelqu'un dans ces postes-là. Et donc, les femmes peuvent plus facilement avoir accès à ce genre de choses. Dans certains pays d'Amérique latine, il y a aussi le fait qu'on peut trouver assez facilement de la main-d'œuvre pour s'aider à faire le ménage, à s'occuper des enfants et ce genre de choses. Au contraire, si vous prenez l'Allemagne, trouver une crèche pour les bébés, c'est très difficile. Mmh. Alors à un moment, il y a des femmes qui choisissent soit de ne pas avoir d'enfants, soit d'arrêter leur carrière parce que voilà, ça devient plus possible de concilier les deux.
Mmh. Vous enseignez à l'université de Liège, Yael Nazet, est-ce que vous constatez que les filles s'autocensurent?
S'autocensure, en tout cas, il y en a moins. Il y en a qui abandonnent peut-être plus facilement que les garçons, oui. C'est assez amusant de se remarquer que ce soit en France ou en Belgique, hein, dans les domaines astronomiques, on est à peu près à 50-50 pour le master en astronomie et dans le doctorat. C'est, finalement, ça va. Et puis, dès qu'on arrive au niveau du postdoc, on a déjà une différence. Et puis après, dans les postes permanents, il y en a vraiment beaucoup moins. Et oui, il y en a qui abandonnent quelque part, ce sont de mauvaises raisons, hein, mais parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, parce qu'il faudrait qu'elles partent en post-doc et que le mari peut partir et il accompagnera, enfin la femme accompagnera, mais l'inverse est moins accepté et partir toute seule, elles n'ont pas toujours envie. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font que malheureusement, on perd les filles.
Quel est l'astronome au féminin qui vous a le plus marqué dans cet ouvrage?
Alors c'est la question qu'on me pose toujours.
C'est toujours la question piège.
Ah, c'est la question piège parce que on les aime toutes évidemment. Et alors bon, à force de découvrir un peu leur vie et tout, on se sent un peu une filiation avec l'une pour certaines choses, avec l'autre. Moi, j'irais finalement. C'est une réponse et c'est une non-réponse. Je vais choisir le harem.
Le harem de Pickering.
Parce que elles sont toutes très comiques, elles ont toutes des choses à faire. J'aime beaucoup Annie Cannon qui a porté des cookies comme ça. Et donc, je choisis le harem.
Oui, et puis certaines avaient un sacré caractère. Merci beaucoup, Yael Nazet. Votre livre, L'astronomie au féminin, est paru aux éditions du CNRS. La semaine prochaine, nous parlerons de l'année internationale de la lumière de Huygens et de Newton avec Michel Blais, philosophe et historien des sciences. Merci à Cécile Bonici. À vendredi prochain.
Contactez autour de la question @rfi.fr. En sol majeur.